Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux, enfin merci d'être restés si nombreux après la conférence précédente. Nous allons parler ce soir d'une question qui nous est posée par les organisateurs des Utopiales. La question étant, la science-fiction nous aide-t-elle à mieux comprendre l'histoire? Bon, personnellement, je pense que la réponse est oui. Et je crois que je ne serai certainement pas le seul.
Je ne suis pas d'accord.
Mais la question inverse mériterait aussi réflexion. L'histoire nous aide-t-elle à mieux appréhender la science-fiction? Ou la réponse, je crois, est également oui. J'irai simplement un peu plus loin, comme je l'expliquerai tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, les univers de la science-fiction sont souvent construits par des auteurs qui, consciemment ou non, reproduisent dans leurs œuvres des éléments, des processus, des images, parfois même des personnalités ou des événements qu'ils ont trouvés dans leur culture historique. L'exemple le plus emblématique de ce processus étant l'inspiration qu'Asimov a trouvée dans l'œuvre d'Edward Gibbon sur l'effondrement de l'Empire romain, sur la chute de l'Empire romain, pour son cycle Fondation, comme je crois tout le monde le sait maintenant. J'ajouterai que contrairement à ce qui se passe presque toujours dans les littératures dites générales, les héros de la science-fiction, plus que de simples individus, sont souvent des civilisations, des sociétés, voire même des planètes. Et effectivement, on ne s'étonnera pas dans ces conditions que les interminables présentations didactiques qui ouvrent parfois les romans de science-fiction, pas toujours d'ailleurs les plus mauvais, sont essentiellement des cours d'histoire. Histoire fictive, certes, mais histoire quand même. Quant à l'Uchronie, y a-t-il meilleure pédagogie pour la compréhension de l'histoire réelle? Imaginer ce qui aurait pu se passer permet de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Tout cela est bien connu, mais je crois aussi, et cette fois-ci, il s'agit d'une opinion un petit peu plus personnelle, à laquelle je ne force personne à adhérer, que la science-fiction ne fait que raconter de vastes pans imaginaires de l'histoire de l'humanité. Que ces pans soient projetés dans le futur, le plus souvent, ou qu'ils se situent dans un passé modifié par une uchronie. Alors, c'est l'histoire elle-même qui n'est plus qu'un cas particulier de la science-fiction. Cas particulier qui nous compte ce qui est réellement advenu, en laissant de côté ce qui aurait pu advenir et ce qui adviendra peut-être, privilège de la science-fiction. C'est ce qui, d'ailleurs, je crois, distingue la science-fiction de la fantasy. Voilà, j'ai mis mon petit grain de sel dans cette affaire. Et voyons ce qu'en pensent nos invités. Mais d'abord, qui sont-ils? Je dois d'ailleurs répéter ici ce que je disais hier. Ce n'est pas moi qui les ai choisis. Donc je me félicite tout particulièrement du choix qui a été fait par les organisateurs des Utopiales. Nous avons donc dans l'ordre alphabétique presque... Oui. Fred Blanchard. Illustrateur du monde de la BD, du cinéma et du dessin animé, qui va m'arrêter si je dis une grosse erreur. Il a travaillé dans de nombreux domaines, mais son influence s'est fait sentir surtout comme directeur de collection, principalement chez Delcourt. Par exemple, série B, ou L'homme de l'année, qui dévoile la face cachée de l'histoire à travers une année emblématique. Et il est également scénariste de la série Le Jour J, série en cours, et qui nous intéresse particulièrement puisqu'elle est dédiée à l'Uchronie.
Je suis co-scénariste parce qu'on est trois, en fait.
Co-scénariste. Petit détail supplémentaire qui n'intéressera strictement personne dans cette salle, sauf lui et moi. Nous sommes, lui et moi, à 21 jours près, exacts jumeaux.
Super. Je veux partir, je suis émotionné.
L'œuvre d'Anne Fakhouri est à la croisée de plusieurs genres, puisque d'abord romancière pour la jeunesse, ce qui lui a permis d'être souvent couronnée, puis romancière tout court. Je ne sais pas très bien comment on dit, romancière pour la vieillesse.
Certains disent vraie romancière parce que la littérature jeunesse n'est toujours pas un vrai.
Vous avez raison, Elle s'est plongée dans le fantastique avec Narcogénèse et elle est maintenant plongée toujours dans la fantaisie urbaine avec American Phase, un roman coécrit avec Xavier Dolot et qui, je crois, paraît aujourd'hui ou demain ou lundi.
Qui est ici en avant-première, mais qui paraît le 6 ou le 9 novembre.
Mais il est ici.
Il est ici.
Très bien, voilà. C'est ça, c'est la bonne nouvelle. Christophe Lambert,
Bonsoir.
D'abord vidéaste, puis maintenant écrivain, principalement pour la jeunesse, lui aussi, dans des genres divers, mais principalement la science-fiction. Son blog, personnellement, que j'ai été voir, m'intéresse parce qu'il décortique des scénarios de livres de films sous l'angle technique.
Pourtant, ça fait un bout de temps qu'il n'est pas mis à jour.
Oui, mais il l'a fait quand même. Donc, voilà. Présente il décortique des scénarios de livres de films sous l'angle technique du romancier qu'il est lui-même. Dernier ouvrage paru, sauf erreur de ma part, Swing à Berlin, que j'appellerais une astucieuse semi-uchronie pour la jeunesse qui se passe dans les années noires de l'Allemagne nazie.
Depuis, il y a eu une vraie uchronie, Aucun homme n'est une île. Un roman adulte, voilà. paru dans une collection adulte, avec Hemingway en guest star.
Très bien, très bien. Enfin, Joëlle Vintrebert, qu'on ne présente plus, puisque, comme elle le sait elle-même, elle est devenue une sorte de grande sœur de la science-fiction française, nouvelliste, éditrice, traductrice, et j'en passe, mais surtout romancière, tant en fantastique, en fantasy ou en roman historique, qu'en science-fiction. Dans ce dernier domaine, principal pour elle, je citerai Les Olympiades truquées et... préférence personnelle, Pollen, mais son roman le plus récent, Les Amazones de Bohème, raconte l'histoire du groupe légendaire des femmes qui a fondé la ville de Prague au 8e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Je vais peut-être alors lancer le débat avec ma proposition de tout à l'heure pour voir comment vous réagissez à cette idée. L'histoire n'est qu'un cas particulier de la science-fiction.
Ha. Oh. Joker.
Non, moi j'allais proposer qu'on demande aux auteurs de science-fiction, à savoir Christophe et Joël, et voilà.
Non, ce qui est intéressant dans le panorama que je viens de planter, c'est qu'effectivement, au moins vous deux, et Joël aussi, avez écrit à partir ou sur l'histoire. C'est peut-être moins le cas d'Anne, effectivement.
Bah, moi j'ai écrit des romans historiques, c'est-à-dire que qui n'ont rien à voir avec la science-fiction. Donc, ce qui est amusant d'ailleurs quand on rencontre des lecteurs comme vous, c'est une réaction fréquente, c'est mais comment vous pouvez à la fois écrire de la science-fiction, c'est-à-dire vous projeter dans le futur, éventuellement très loin dans le futur, et écrire des romans historiques, comme si c'était un petit peu antinomique de cette projection dans le futur et cette projection dans le passé, et comme si finalement c'était... d'une façon d'écrire extrêmement différente. Et je dis toujours, mais pour moi, il n'y a absolument pas de différence finalement dans l'écriture d'un roman historique. Je ne sais pas ce que t'en dira Christophe, mais pour moi, c'est la même façon d'écrire. Il y a la même rigueur dans l'écriture, la même rigueur dans la recherche documentaire. Évidemment, on a beaucoup moins de possibilités de dévier de sa route quand on écrit un roman historique, puisque bon, il faut aller chercher... d'une façon très très précise des sources et s'y tenir. Mais c'est exactement la même façon finalement de travailler. Et pour moi, je vais aller chercher finalement dans le passé des thèmes qui sont les mêmes que ceux que je vais explorer dans le futur. C'est-à-dire que pour moi, écrire sur le passé ou écrire sur le futur, c'est toujours une métaphore du présent. Donc finalement, je vais explorer des thèmes qui sont très importants pour moi. Et c'est une façon de mettre en scène des sociétés la façon dont finalement... j'ai vraiment très très fatiguée, moi. ces thèmes qui sont très importants pour moi, donc je vais les explorer à la fois dans le passé et dans le futur. Voilà.
Ouais, je suis assez d'accord, c'est vraiment le même travail. Et je me suis rendu compte, en élaborant la série Jour J, qui est une série de bandes dessinées uchroniques. Donc, c'est une série qui est composée à chaque fois d'histoires qui sont développées et terminées en un seul album. Alors qu'à la base du label que je dirige, on était parti plutôt au début des années 90 sur du cyberpunk, des choses comme ça. J'ai fait vraiment un parallèle quand j'ai compris le processus d'écriture qu'on était en train de mettre en place. J'ai fait le parallèle avec de la musique. Je me suis dit un peu, c'est comme si des vieux punks, qui a commencé avec de la guitare électrique tournée vers le futur, l'énergie, tout ça, revenaient à la guitare sèche, revenaient au folk. C'est des notes, ça va raconter le même genre d'histoire, mais pas du tout de la même façon. C'est tourné soit vers l'intérieur ou l'extérieur, soit vers le futur, le passé. Mais effectivement, en termes d'intention d'écriture, en termes de, même j'allais dire, de documentation, dans un camp on va la créer, dans un autre camp on va la trouver pour la transmuter. Le principe est vraiment exactement le même. Donc, je pense que le débat ne va pas aller loin, parce que si on est d'accord dès le départ sur tout, je pense qu'on va vous libérer au bout d'un quart d'heure.
Non, mais je suis sûr qu'il va pouvoir y avoir quelques développements.
Il est là. Là-dessus.
pour donner juste deux exemples, pour toi qui connais bien ce que j'ai écrit, deux de mes romans, donc on a cité Les Amazones de Bohème et tu as cité Pollen, ce sont deux mises en scène de sociétés utopiques, de tentatives utopiques finalement de mettre en scène des utopies féminines et qui finissent, en tout cas, finalement, j'explore la tentative utopique dans le passé et dans le futur.
J'allais presque dire que la seule différence, enfin nous, en termes d'écriture, on est à peu près d'accord sur le fait que c'est le même travail. La seule différence, en tout cas moi, que j'ai pu noter, c'est eux, c'est vous. C'est-à-dire la façon dont vous recevez les histoires. Si on extrapole sur notre présent, qu'on va dans le futur, j'ai remarqué que le lectorat, pour peu qu'il adhérait à l'histoire, était capable d'accepter beaucoup de choses. Quand on va dans le passé, il y a un travail de documentation, d'écriture qui se fait, et des fois, il y a une espèce de refus du récit. En tout cas, par mon expérience personnelle lors de dédicaces, il y a des lecteurs qui nous ont dit qu'il y avait des univers qu'on avait développés.
Il y a toujours des spécialistes autoproclamés, oui, des gardiens du temple autoproclamés.
Ça allait au-delà de ça. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi, quand on revient dans l'histoire, quand on revient dans le passé, suivant les périodes, une méconnaissance du lectorat aussi de certaines périodes qui, des fois, peuvent être peut-être un peu pointues. Pour tout ce qui est 20e et 19e siècle, ça va. On a tous des souvenirs de cours d'histoire. On est tous quand même à peu près nés au XXe siècle, donc on a quand même des bases sur notre univers présent. Je me suis rendu compte que quand on remontait beaucoup plus dans le passé, ça devenait presque un travail de spécialiste, d'historien vraiment à part entière. Et des fois, on perdait le public tout bêtement parce que on sent bien qu'il y a une méconnaissance de certaines périodes et pour le coup, vu que c'est de l'historique, il y a une acceptation qui ne se fera jamais comme un équivalent en science-fiction. Enfin, en tout cas, là, je parle pragmatiquement d'expériences que j'ai pu.
C'est un peu paradoxal parce que je connais énormément de gens qui adorent des histoires qui se passent dans le passé. Donc, grosso modo, on va appeler ça roman historique, mais je connais beaucoup plus de gens qui détestent les histoires qui se passent dans le futur.
C'est paradoxal. Ouais. Alors on va faire un débat sur les paradoxes.
Qui n'aiment pas ni l'anticipation, ni la science-fiction, ni genre des histoires qui se passent quand je serai mort. Tu te rends compte ?
C'est paradoxal parce qu'en fait, quand on situe très loin dans le passé, finalement, on fait parler des personnages alors que finalement, on n'a pas de légitimité.
Exactement.
Plus à les faire parler que des personnages qu'on va faire parler très loin dans le futur. On ne peut pas penser que des personnages qu'on va faire parler très loin dans le futur, on a une idée de la façon dont ils pourraient parler, pas plus qu'il y a une licence poétique. C'est évident que quand on fait parler des personnages au 8e siècle, on n'y était pas, on n'a absolument aucune idée de la façon dont ils parlaient. Sociologiquement, c'est extrêmement culotté de notre part d'imaginer de quelle façon ils vivaient, même si on va aller vraiment aux sources, même si, comme moi j'ai pu le faire, on va aller chercher les traces archéologiques, on va vraiment fouiller, on va aller au fond, on va vraiment se documenter d'une façon très 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 pointue. N'empêche, on est très culotté à l'écrire de cette façon-là. Donc on n'a pas plus de légitimité à mettre en scène des personnages au 8e siècle que très loin dans le futur. Voilà, c'est clair.
C'est vrai, mais a priori, je me dis que tout le monde connaît certains cadres. Donc comme ils sont acceptés, c'est vrai qu'en termes d'écriture, on n'a pas inventé une vision globale d'un futur et la faire accepter par le lectorat. C'est vrai que dans le cas d'un roman historique ou d'une uchronie, pour peu qu'elle explore une période un minimum connue de tout le monde, on peut effectivement se rapprocher beaucoup plus des personnages que sur un récit tourné vers le futur. À ce niveau-là, il y a quand même une partie du travail qui a déjà été fait. Et puis, on peut vraiment tirer parti à ce niveau-là. Ça permet d'avoir déjà le squelette et puis de pouvoir greffer les os où on veut.
Anne Fokori, qui, je crois, a été privée de micro jusqu'à maintenant.
Non, mais
silence.
C'est pas grave. C'était passionnant.
Alors, on en aura deux.
C'était passionnant. Mais après, on peut être encore plus vicieux, en fait. Nous, avec Xavier, on l'a été. On n'est pas du tout historien. D'ailleurs, je regarde qu'il ne soit pas là parce que lui, c'est un vrai auteur de science-fiction. Il est libraire et éditeur de science-fiction. Donc, sur l'Uchronie elle-même, il aurait eu beaucoup de choses à dire. Donc, déjà, nous, on n'a pas créé une Uchronie, on a créé un monde alternatif. American Face est un roman, en fait, qui met en scène quatre branques employées par Al Capone parce que les fées ont envahi Chicago et qu'elles apportent beaucoup de bonheur. Donc évidemment, ça nuit au commerce, à la prostitution, au commerce d'Al Capone. Et du coup, on a fait évidemment des recherches très pointues parce qu'on est très sérieux. Mais on s'est quand même beaucoup basé sur notre culture cinématographique sur les années 20. Donc on a mis certains Lemchaud, on a mis aussi après toute la culture cinématographique du 20e sur la mafia. On a fait plein d'allusions à ça, ce qui fait qu'on a joué vraiment sur la référence, sur l'intertextualité, sur finalement la connaissance du lecteur, pas en histoire, mais en cinéma et en littérature. Cela dit, nous, c'était pas vraiment. C'est un décor, évidemment, comme Chicago est un décor, puisqu'il y a vraiment une aventure liée aux personnages, etc. Mais on s'est amusé à reprendre l'histoire des États-Unis un peu à la façon Neil Gaiman dans American Gods, puisqu'on a décidé que les fées avaient fait donc un grand coming out au 19e siècle. Et qu'avant, les hommes avaient rapport au fait qu'ils ont toujours eu, c'est-à-dire qu'elles leur laissaient de la brioche, de la crème, etc. Ils y croyaient et ils les craignaient. Mais que, voilà, au 19e siècle, les fées font leur coming out. Et évidemment, comme on est aux États-Unis, il y a deux grandes tendances. D'un côté, les arts et cet avant-gardisme qu'on a longtemps envié. Et puis de l'autre côté, la loi. Et le pouvoir de l'argent. Donc, on s'est beaucoup amusé à étudier l'histoire des États-Unis, pas à fond, du Mayflower à nos jours, pour lier des faits à ces deux grandes tendances, en mettant de côté les faits indiennes, dont on a décidé qu'elles restaient très primitives, qu'elles ne voulaient même pas se mêler aux autres faits, et de recréer une histoire des États-Unis féerique comme ça, donc du Mayflower à nos jours, en montrant d'un côté l'influence de fées nordiques un peu sombres et de l'Est, donc les trolls, les gnomes, etc., sur le pouvoir, tout ce qui touchait le pouvoir. Et puis, de la même façon qu'il y a des descendants du Mayflower, les descendants des fées lumineuses qui sont arrivées aux États-Unis, qui sont les artistes, évidemment, chanteurs, musiciens. Voilà, il y a toute une histoire du jazz dans American Fays. Et voilà, donc nous, on a joué vraiment sur le fait que le lecteur, de toute façon, n'avait pas besoin de très bien connaître l'histoire des États-Unis, les années 20, la Prohibition, pour pouvoir mettre en scène nos quatre losers absolus qui partent donc dessouder des faits dans Chicago.
Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour pinailler quelque peu. Effectivement, on peut parfaitement imaginer dans une uchronie, et Dieu sait que ça a été fait, que les sudistes ont gagné la guerre de sécession au lieu des nordistes, et avec toutes les conséquences que ça implique. Je suis désolé, mais on ne peut pas imaginer que les fées ont fait leur coming out, parce que, excusez-moi, les fées, ça n'existe pas. Donc,
prouvez-le-moi.
C'est pour moi. Ah non, ça, ce genre d'argument est beaucoup trop facile.
C'est pour ça qu'elle a dit non. Univers parallèle.
Oui, alors c'est effectivement.
Donc, la fantaisie urbaine, pas la science-fiction.
Il y a un décalage de la situation du lecteur par rapport à la réalité inventée qui n'est pas le même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Cela dit, pour en revenir aux fondamentaux, un romancier qui écrirait un roman de littérature dite blanche n'a pas à se préoccuper de décrire l'environnement dans lequel se passe l'histoire qui va les décrire et les personnages qui vont effectivement s'y dérouler. Un auteur de roman historique ou un auteur de science-fiction ou un auteur de fantasy, d'ailleurs en général, ne peut pas se passer de décrire le monde différent du nôtre dans lequel se passe l'histoire qu'il est en train de raconter, même s'il est très peu différent et même s'il le fait de façon très subtile, très discrète à travers l'histoire elle-même. Donc je crois que c'est là peut-être que effectivement histoire et science-fiction et fantasy peuvent avoir des points communs.
Ça dépend où tu mets le curseur. Du parallélisme de l'univers développé. Effectivement, en fonction de la place où sera le curseur, il y aura un gros boulot à faire sur l'univers ou pas. Là, par exemple, nous, on vient de faire un tome qui n'est pas encore sorti de la série Jour J. On s'est rendu compte, parce qu'il y a un des co-scénaristes qui bossait pour la Fondation Jean Jaurès il y a encore quelques années, on s'est rendu compte qu'après l'assassinat de Jean Jaurès par Jean Vilain, donc il a été acquitté à l'issue d'un procès en assise et tout ça, c'est un fait qui est très peu connu, mais la division Corse de la SFIO avait proposé de faire assassiner Raoul Villain, donc l'assassin de Jaurès. Là, sur une des dernières uchronies qu'on a développées, on est parti du fait que dans notre réalité, ça a été refusé. Là, ça va être accepté. Alors, c'est vraiment une uchronie intimiste. Ça aurait pu se dérouler, on n'aurait pas été plus au courant que ça. Voilà, là c'est très très intime. Voilà, exactement. Et à l'autre bout du spectre, ce qu'on a pu faire, bah, il y avait, pour revenir aux États-Unis, la France qui n'avait pas vendu sa part de la Louisiane et tout ça. Et on se retrouvait au XXe siècle avec un pays complètement indépendant, avec une société un peu égalitaire avec les Indiens, où il y avait quand même des Noirs en esclavage dans des champs de raisins parce qu'on faisait du vin. Il y a l'industrie du cinéma qui s'était développée avec. Il y avait des gros moguls comme Henri-Georges Clouzot, ce genre de choses-là. Là, effectivement, on est obligé de planter le cadre de manière beaucoup plus dure. Mais après, c'est un talent d'écriture qu'on peut avoir ou pas, mais c'est une façon de doser les éléments qu'on veut mettre en avant et ceux qu'on veut garder dans le fond. Ça se résume quand même à un boulot d'écriture normal.
Ceci dit, c'est le cas extrême de Jean Jaurès et Villain, c'est rarissime quand même.
C'est très rarissime, mais bon,
très,
voilà.
Non, mais ça existe, bien sûr. Mais très généralement, le monde qu'on est amené à décrire de manière indispensable pour que les lecteurs comprennent où se passe l'affaire, il y a un travail spécifique qui, à mon sens, est un petit peu un travail qui est de même nature du côté de l'historien et du côté de l'écrivain de science-fiction ou de fantasy, je crois.
Alors, des fois, je trouve que c'est aussi ce travail-là, quand il y a une uchronie qui est trop divergente, des fois, ça vire à la caricature et c'est plus du tout de l'uchronie. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit l'uchronie, on est confronté à. J'en parle parce qu'on est confronté à ça depuis qu'on a lancé cette collection aujourd'hui chez Delcourt. On a essayé de faire vraiment des uchronies. Donc, on part d'hypothèses réalistes, on essaie de voir un événement qui diverge de notre réalité et où ça nous amène. À chaque fois, il y a un point de départ, un point d'arrivée avec plus ou moins de conséquences. Le tome 1, c'était une des missions Apollo est heurtée par une micro-météorite. Du coup, le programme Apollo marque un peu le pas et les Russes finissent par gagner la course à la Lune. Partant de là, où on peut aller ? Et il se trouve qu'il y a des gens, il y a des lecteurs qui pensent que certaines histoires sont de l'uchronie alors que c'est de la SF pure. Par exemple, il y a des bandes dessinées que moi j'appelle l'histoire nazie dont vous êtes le héros, type Wunderwaffen ou type Bloc 109 pour ceux qui connaissent. C'est des histoires qui prennent le parti pris que l'Allemagne nazie a gagné la guerre, chose qui était complètement impossible. Et à ce niveau-là, quand on part sur des univers complètement débridés comme ça, on n'est plus du tout dans l'uchronie. Et là, je pense qu'il y a matière à perdre d'autant plus le lecteur qu'on l'entraîne vraiment sur une piste qui n'est pas du tout réaliste. C'est plus du tout un jeu avec l'histoire, c'est un jeu carrément avec l'imagination, avec le fantastique complet. On se retrouve presque plus dans la position d'un univers parallèle ou divergent, mais plus du tout avec une essence uchronique telle que, en tout cas, je pense qu'il faut l'entendre quand on élabore ce genre de boulot-là.
Pourquoi on n'est pas dans l'uchronie si les nazis ont gagné la guerre ?
Parce que matériellement, ils ne pouvaient pas la gagner.
Ah oui, mais la réponse est claire. Toute uchronie part d'une situation impossible. La preuve, c'est que c'est l'autre qui s'est passé.
Oui.
Là, on se retrouve avec des histoires avec des gros robots de 3 mètres nazis qui foutent la pâtée à tout le monde. C'est n'importe quoi, ça ne pouvait pas exister.
Ah bah, s'il y a des gros robots nazis, effectivement.
Pas de robots nazis.
Tout dépend de la façon dont la petite divergence se produit.
Chez moi, les robots nazis viennent du futur, dans la brèche.
Bah poursuis, Christophe, t'arrêtes pas là.
Oui, vas-y. Mets-moi la pâtée.
On veut t'entendre un peu.
Non, chacun fait ce qu'il veut et chacun creuse son sillon comme il veut. Que vous dire ?
Comment ça diverge chez toi ?
Mais moi, je m'intéresse toujours plutôt au moment de la divergence. Donc, si je devais traiter de... du 19e siècle et de Napoléon et de Waterloo, ça serait vraiment comment est-ce que Napoléon aurait pu renverser la vapeur et gagner la bataille, et pas ou alors si je traite de l'Amérique découverte par les Vikings et colonisée par les Vikings, je vais vraiment faire l'amérissage et les premiers moments, mais je vais pas décrire un 20e siècle avec des Mac Odin et des Thor Burger et des je sais pas quoi, des dieux du Valhalla sur les billets de
Valhalla
banque.
Paille.
Voilà, c'est pas le côté sociologique qui m'intéresse, mais c'est vraiment le moment charnière, la cheville.
Il peut y avoir les deux, il peut y avoir le moment charnière et là où ça nous mène, ça peut être même où ça nous mène à très court terme.
Mais moi, en tant que raconteur d'histoire, en tant que lecteur ou spectateur, je suis assez client des uchronies de longue haleine, mais moi, j'aime bien vraiment choper le point de divergence et le regarder au microscope.
Alors, dans ce cas-là, on va peut-être partir dans l'autre sens et se dire, est-ce que vous connaissez, ce que vous avez en tête, des exemples d'histoires de science-fiction où l'histoire ne joue quasiment aucun rôle ? C'est-à-dire, c'est l'inverse, le cas complètement différent des histoires qui se passent dans un futur plus ou moins lointain, éventuellement proche, mais où la trame historique, le courant historique n'apparaît pas.
Ça me semble compliqué parce que l'anticipation se construit souvent de manière négative à partir d'une dégradation de la société ou de l'environnement. Donc on est obligé d'avoir un background et on prend le train en cours de route. Donc on est obligé de raconter ce qui s'est passé un peu avant. Alors à dose homéopathique et vraiment au compte-goutte pour avec une louable parcimonie pour pas noyer le lecteur sous un flot d'informations indigestes. Mais c'est difficile de faire l'économie de ce qu'il y a eu avant. Alors dans le space opéra.
Êtes-vous d'accord avec ce constat d'impossibilité?
Non, mais moi j'allais dire assez bêtement le space opéra, mais me croyez pas. dans le space opéra, il y a une prise dans la réalité, dans la technologie. Il y a peut-être moins de prise dans l'histoire elle-même en tant que cause.
Comment s'est bâti l'empire qui est au pouvoir au moment où tu racontes l'histoire?
Oui, voilà. On prend modèle sur une histoire, mais on n'est pas dans une continuité comme l'anticipation, effectivement, où là vraiment on prend source dans l'histoire. Tel qu'on a connu. Évidemment, on ne peut pas écrire sur rien et à partir de rien. Donc, on a un modèle qu'on dévie, mais il n'y a pas de référence en soi. J'affirme, mais bon. Mes références, c'est Firefly et la guerre des étoiles. Donc,
bah justement, si tu prends la guerre des étoiles, il y a tout un background historique. Ouais. Bah, si, c'est quand même fondé sur un plan historique. Surtout qu'il y a eu.
Tout un déroulant qui t'explique que c'est la guerre civile.
Et puis il est retourné en arrière, justement, pour expliquer. C'est pas notre histoire à nous.
Alors, non, mais ça, c'est une bonne remarque, effectivement.
Ouais.
Toute intrigue, on va dire ça, sinon ça devient confus.
Peut-être toute qu'il faut intrigue que tu prévises, Jean-Jacques. Voilà, ouais.
Toute intrigue qui se déroule dans un futur indifférencié n'implique pas automatiquement une histoire qui soit explicitement relié à la nôtre par une série d'événements, une chaîne d'événements qu'on peut identifier. Ça peut se passer dans un futur vague, flou, qu'on n'arrive pas à le relier au nôtre. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Qu'en dites-vous? Avez-vous quelque chose d'autre à dire?
Comme on parle de films, les films que j'ai trouvés les plus intéressants, même s'ils ne sont pas complètement raccordés à notre réalité, sont ceux qui présentent un miroir vraiment déformant de notre réalité telle qu'on la vit au moment où le film se passe. Je pense à des films comme Blade Runner ou même plus proche de nous, à un film comme Les Fils de l'Homme, que moi personnellement je n'étais pas allé voir en salle parce que quand on m'a dit que le postulat de base du film c'est les femmes n'arrivent plus à avoir de môme, je me suis dit mais c'est complètement débile ce film, j'irai jamais. Et puis j'en ai entendu parler. Moralité, il est sorti en DVD. Je l'ai acheté et j'étais sur le cul. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a accepté ce postulat de base, et en plus qui peut se vérifier par les difficultés que certains ont à avoir des enfants, j'ai connu ça autour de moi, j'imagine que vous êtes plein à avoir connu ça aussi. Donc c'est quelque chose, même si ça a l'air idiot comme ça quand on pitch le film, qui passe très bien dans le postulat de base. Et dans, voilà.
Surtout que la fertilité masculine diminue.
Exactement.
C'est avéré.
Il faut faire du sport, il faut arrêter de boire du lait. Bref. Manger de la viande rouge. Non, j'ai pas dit.
Bien.
N'empêche que. Quand on voit ce film-là, ce qui est intéressant dans cet exercice d'Uchronie à très court terme, c'est pas tant l'Uchronie en tant que telle, c'est que ça nous fait passer à travers le miroir de notre propre réalité. On n'est plus du bon côté des rails, on n'est plus dans notre civilisation occidentale qui est ouatée, tout ce qu'on veut, qui est assez dure, mais qui n'est quand même pas confrontée à la mort tous les jours, à ce genre de trucs-là. Et bien là, elle est carrément au cœur de ce film-là. On a vraiment l'impression que tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Asie, tout ça, dans ce film-là, on est en train de le vivre dans nos sociétés occidentales. Et mine de rien, ce film-là, moi, je trouve que ça nous fait vraiment réfléchir à vraiment, ça nous donne de l'empathie avec ce qui peut se passer dans le monde actuel, parce que tout bêtement, ça déplace le curseur et on se retrouve vraiment de l'autre côté du miroir. Et dans ce cas précis-là, je trouve que c'est vraiment super intéressant d'avoir une uchronie, d'avoir un jeu comme ça avec l'histoire immédiate, pour quelque chose qui n'est pas facile à faire, parce qu'on n'a pas le retour nécessaire. Alors c'est quelque chose qui s'est vachement sur l'émotion, sur, sur l'empathie qu'on peut avoir avec les personnages, mais dans un cas précis comme celui-là, je trouve que ça joue vraiment
son rôle. C'est plutôt de l'anticipation, le fils de l'homme. C'est un futur proche.
Mais
pour moi, Uchronie, c'est le.
Mais pour moi, c'est plutôt vraiment avec un postulat de base dont on peut penser ce qu'on veut. C'est vraiment nous donner un point de vue différent sur notre réalité immédiate, enfin sur la réalité qu'on peut vivre toujours. C'est plus un exercice de style qu'une Uchronie en tant que telle.
Les œuvres qui sont écrites à un moment T sont imbibées de ce qu'il y a autour, de l'actualité, de l'ère du temps. Donc, Minority Report parle du tout sécuritaire. Oui, la guerre des mondes parle du 11 septembre. Tu as une série géniale anglaise qui s'appelle Black Mirror, qui parle. Il y a un épisode absolument génial avec un mec qui pédale toute la journée et qui dépense tous les points qu'il a gagnés dans des avatars pour s'acheter des petits chapeaux. En même temps, ça parle de la télé-réalité. Si vous avez l'occasion, cette série Black Mirror, elle est extraordinaire. C'est des épisodes autonomes. Mais bon, tout ça pour dire que les récits d'anticipation, en général, ne sont qu'un miroir déformant. Et c'est
vrai. Mais là, quand ça peut jouer sur l'empathie, puis vraiment sur un curseur vraiment quasi immédiat avec notre réalité. Tu parlais de Minority Report, et c'est vrai que pour moi, Minority Report, c'est le 11 septembre vu du côté des États-Unis, et Les Fils de l'Homme, c'est l'après 11 septembre vu du côté des États-Unis, et Les Fils de l'Homme, c'est plutôt la même chose, mais vu du côté européen. On s'aperçoit que l'humain est beaucoup plus au centre des problématiques, il y a beaucoup plus d'empathie, il y a moins de flingues, il y a moins de fascisme latent, je trouve, que sur la vision qu'ils ont pu développer sur Minority Report, même si elle est intéressante. Hein, mais on voit bien qu'il y a deux civilisations, il y a des options qui ne sont pas du tout les mêmes, alors qu'on est tous les deux dans des civilisations occidentales.
Bien. Y a-t-il des réponses dans la salle à cette question, ou à toutes celles qu'on vient d'évoquer? Ah ben voilà, tout de suite une.
Juste pour faire deux petites remarques, Firefly est clairement une série qui se base par rapport à notre histoire. C'est clair, dans Background, c'est clairement précisé à travers les langues utilisées qui viennent directement des Chinois et de l'anglais, c'est selon les usages. Et le premier épisode montre bien le départ de la Terre. En un certain nombre d'éléments qu'on montre qu'on part vraiment de histoire, c'est vraiment du futuriste. À l'inverse, je remarquais que Star Wars, il y a très très longtemps, dans une galaxie très lointaine. C'est plutôt de la fantasy, de fait. C'est donc un avatar assez particulier. C'était juste à ce sujet-là.
Oui, bon, on va pas faire une digression sur Star Wars parce que ça se discute. Il y a effectivement le côté fantasy, même médiévisant, la quête du Graal, etc. On est quand même aussi dans des motifs.
Western,
non, ça c'est Firefly, le western. Évidemment. Maintenant, qu'il y ait des références, on a besoin d'un contexte pour écrire une histoire, c'est évident. Donc, qu'il y ait des références, que ce soit dans Firefly ou dans La Guerre des Étoiles, et surtout des références esthétiques, parce que dans Firefly, il y a effectivement le fait qu'on revienne presque à la définition du space op avec les cow-boys. Et puis, le langage, sont deux œuvres, enfin, une série, un film, qui ne parle pas d'histoire, qui parle d'histoire humaine, qui passe vraiment par le personnage. Je différencie vraiment le traitement de l'histoire par ça. L'histoire qui est traitée par des détails, par la petite histoire, par les personnages, et c'est ce qu'on trouve dans Firefly et dans La Guerre des Étoiles, parce que dans La Guerre des Étoiles, finalement, en tout cas pour moi, savoir si Luke Skywalker va gagner sur l'Empire, on le sait dès le départ. Donc, voilà. C'est George Lucas, on le sait dès le départ, qu'on est 6 ans ou qu'on en est 50. Et puis dans Firefly, la guerre est finie de toute façon, donc la question ne se pose plus. Et on est plus dans la question de la survie des personnages et la façon dont ils vont évoluer, même en ayant vu Serenity. Certains d'entre vous n'ont pas vu cette série et ce film qui sont vraiment très très bons. Je ne vais pas raconter, mais voilà. Donc évidemment qu'on a besoin d'un contexte historique concret à partir de notre histoire, mais dans Firefly, il y a La Guerre des Étoiles, il n'y a pas de réflexion sur l'histoire elle-même, on est vraiment dans les personnages. Donc zut, un spécialiste.
Attends,
le cauchemar de tout auteur en table ronde. Il y en avait un.
Il y a quand même une mise en scène de société.
Alors, spécialiste.
Dans La Guerre des Étoiles.
Mais bien sûr, mais on est obligé. Enfin, moi, je veux bien qu'on décrive un personnage en apesanteur. On l'a fait dans Gravity. Mais évidemment que si on veut mettre des personnages en mouvement, on est obligé de définir une société, une histoire, et ne serait-ce que pour avoir une crédibilité. Mais voilà, il n'y a pas de réflexion sur l'histoire. De la même façon, je pense à une bande dessinée, Les Brigades du Temps, que moi, j'aime bien, que je lis dans Spirou. Tu tu vois ce que c'est, les Brigades du Temps? Oui.
Non, oui. Non, pardon. Non,
oui. Oui, je crois. Voilà. J'ai pas lu, mais je crois.
Ou là, c'est vraiment uchronique, puisque ce sont des brigades du temps qui doivent rectifier l'histoire et d'autres qui doivent empêcher certains événements de se produire. Et là, c'est vraiment. On est dans l'uchronie, mais c'est un prétexte à l'action. Il n'y a pas une réflexion sur l'histoire elle-même. Mais allez-y, mais quelqu'un a un micro pour. Non.
Oui.
Oui, justement, j'avais une question par rapport à l'histoire. Quand la science-fiction nous permet de revenir dans le passé. Aller dans le futur pour rechanger le futur passé de l'ancien futur, du nouveau présent.
Ah oui.
Bon, alors faites sortir le public
maintenant.
Et dans ce cas,
quelle est la part de l'historien qui ne sait plus dans quelle réalité il va se retrouver une fois qu'il aura modifié le passé de son ancien double qui n'est pas encore né? Retour vers le futur est un de mes films préférés.
Oui, oui, bien sûr. Et alors?
C'est alors, d'accord, laissez-moi ouais. sortir.
Alors justement... Quelle est la part de l'histoire quand l'histoire peut changer? On peut affecter la prochaine histoire, mais pas forcément la sienne.
Oui, mais quelle que soit la gymnastique narrative dans ce type de cas, on est en plein dans l'histoire. Alors, même si celle-ci devient malléable, modifiable, multiple éventuellement, c'est elle qui est là. Enfin, c'est elles qui sont là, puisqu'elles deviennent multiples. Mais c'est l'histoire. On est en plein dedans.
Je sais pas, moi, j'ai pas compris la question ni la réponse. Donc, et en plus, c'est intéressant parce que moi, j'ai écrit un livre en hommage à Retour vers le futur qui s'appelle L'horloge du temps perdu, qui est clairement pour les 12-14 ans. Et j'étais affreuse parce que je voulais pas traiter la question du paradoxe temporel, parce que je me suis dit que j'allais pas m'attaquer à la physique quantique là maintenant. Et du coup, je suis partie du principe que le postulat de base sur le paradoxe temporel, c'était retour vers le futur. Et là, c'était encore un petit truc vicieux d'écrivain, parce que du coup, j'étais inattaquable sur la question du paradoxe temporel. Voilà.
Bien. Avez-vous compris la question? Non. Si, lui a compris la question.
Non, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais quand on modifie en gros l'histoire officielle... soit on part du principe qu'il y a un tronc, enfin il y a un fleuve commun et à ce moment-là le présent que nous vivons est modifié. Mais bon, comme nous lecteurs, on voit bien que le présent n'est pas modifié. Il y a un bug quelque part. Donc là, l'espèce de plan B, c'est d'imaginer qu'à chaque fois qu'un événement du passé est modifié, il y a une sorte de ramification, hein, de branches parallèles qui se créent. Et comme ça, les univers parallèles se multiplient.
C'est les physiciens nous parleraient de Brahne.
Oui, mais alors, objection, votre honneur, si le présent est modifié, tu dis oui, non, il n'est pas modifié, la preuve. Mais si, il vient d'être modifié, mais voilà le nouveau présent. Mais tu ne t'es pas aperçu de la différence. L'autre était très différent. On était 6 autour de la... Enfin, semble-t-il. D'autres questions possible. Ou d'autres réponses? Oui, encore. Alors, il veut préciser...
Non, Star Wars, on oublie pour l'instant. Bon, bah, je peux y aller. Donc, au début, je me dis.
Je sais pas où il est, du coup.
Non, bah, c'est là, toujours.
Ah, bah oui, d'accord.
Donc, tout à l'heure, je me disais finalement histoire, science-fiction.
Levez-vous qu'on vous voit.
Oh là là.
Ah oui, bah, donc, écoutez.
Je me disais histoire, science-fiction, oui, forcément, à tout prix. Et puis, tout d'un coup, Black Mirror. Bah oui, l'essence de la science-fiction, c'est pas toujours des romans, c'est pas toujours des empires, des choses comme ça. Parfois, c'est juste simplement une petite nouvelle, une histoire courte. Et c'est ce qui fait, franchement, enfin, l'essence de la science-fiction, quand je vois Black Mirror, c'est. Un futur un peu comme le nôtre, pas trop comme le nôtre, où on se retrouve un peu du quotidien plus que du fantastique, des grands empires. Et c'est peut-être ça qui fait vraiment l'essence de la science-fiction. C'est la science-fiction sans histoire, celle du, voilà, c'est un roman du quotidien, du banal, dans un univers qui n'est pas du tout comme le nôtre.
Et oui, là, dans Black Mirror, le curseur est juste un tout petit peu poussé dans la satire, mais on n'est vraiment pas loin de ce qu'on vit actuellement.
Donc, je pense que je vais un peu digresser. Moi, j'aurais dit le passeur, qui n'est pas vraiment la science-fiction, mais qui n'a pas forcément besoin d'histoire derrière, si vous l'avez déjà lu ou pas.
Le passeur de Loïs Lory.
Sûrement, je ne me rappelle pas de l'auteur. Ouais. Ce n'est pas vraiment de la science-fiction, mais c'est un truc qui sort un peu.
C'est la dystopie.
Oui, voilà. Et il n'y a pas vraiment besoin d'histoire derrière globale. Ça sert d'un régime totalitaire, donc on a l'idée, mais l'histoire derrière n'a pas de but.
Bah, y a de l'histoire à partir du moment où on comprend très bien dans Le Passeur que c'est notre futur. Ça n'est pas précisé, puisque pour ceux qui ne l'ont pas lu, alors n'allez pas voir le film. Moi, j'ai vu la bande-annonce. Évidemment, il y a une. Comme d'habitude, ils ont rajouté un personnage féminin qui, comme dit l'odieux connard, qui n'a pas de muscles. Je ne sais pas si vous connaissez le blog de l'odieux connard, qui n'a pas de. Toute cette génération de jeunes filles qui n'ont pas de muscles dans la mâchoire inférieure. Comme ça. Donc n'allez pas le voir le film. Lisez le livre si vous ne l'avez pas lu au collège. Dans Le Passeur, effectivement, on est dans une dystopie, donc dans un monde qui paraît idéal. Clairement, dans notre futur, il n'y a plus de bonheur, plus de malheur, plus de maladie. C'est une véritable fourmilière. Donc on a, là, typiquement, c'est un contexte. On n'a pas besoin de dire au lecteur que c'est notre futur. Et le lecteur n'a pas besoin de références historiques. Parce qu'on est dans le quotidien. Parce qu'il a suffi de créer une fourmilière où il y a les reproductrices, les ouvriers, etc. Donc on comprend dès le départ, effectivement. Et là encore, dans Le Passeur, c'est un film formidable que moi j'ai beaucoup étudié avec mes élèves. Et effectivement, on est de toute façon dans l'histoire d'un personnage. C'est une réflexion sur notre société. Là, on est dans l'histoire, vraiment, on est dans la réflexion sur la société, sur la place dans la société, sur l'idée de cause-conséquence. Et voilà, donc là, on n'a pas besoin des références historiques, on le comprend.
C'était juste pour le citer quand vous avez dit ça. Et ma question, c'était l'histoire, quand du coup vous l'utilisez dans la SF, est-ce que l'inverse n'est pas aussi super. Enfin, ça peut être dangereux à force de donner des références historiques que les gens finissent par se tromper, comme le fait que certaines personnes croient que Kubrick a filmé des gens pour dire qu'on n'est pas allé sur la Lune.
C'est la responsabilité de chacun, hein, quand même, à la base, non ?
Oui. Tout à fait.
Il y aurait un danger que les gens, en lisant des uchronies, prennent pour argent comptant le contenu de l'uchronie, c'est ça la question ?
Oui, mais alors, oui, mais ça, c'est, enfin, je sais pas, c'est la responsabilité du lecteur aussi d'aller vérifier si on dit pas trop de conneries à un certain moment.
Oui, alors c'est un problème clinique. C'est peut-être un problème clinique aussi.
Voilà. On n'a pas de garantie de bonne conduite en tant qu'auteur, ni de bonne conduite historique, ni narrative. Évidemment qu'on présente des mondes, mais normalement, le lecteur sait différencier notre rapport, nos références. Il devrait. Voilà. Et de toute façon, ça n'est pas notre responsabilité en soi. Ça rejoint la question du lecteur qui n'a pas compris. L'histoire, il y a un moment aussi où c'est pas simplement de la faute de l'auteur, où c'est pas une question de narration, c'est au lecteur aussi d'acquérir les connaissances suffisantes parfois pour accéder à une histoire.
Ouais, il y a des fois pour rendre des histoires, des uchronies un minimum compréhensif, il faut aussi quand même les mettre un minimum à la portée des lecteurs.
Ah, mais complètement, je suis pas en train de dire qu'il faut pas. Mais je veux dire, a priori, si le boulot est bien fait, le lecteur ne doit pas confondre.
Une question utile.
Oui, bonjour. Alors, en fait, je suis un petit peu embêté. J'ai deux questions. Donc, à voir si vous répondez aux deux ou seulement à une des
désolé,
deux.
Désolé, on ne livre qu'une seule réponse.
Ah bon, d'accord.
Allez-y quand même.
Alors, ma première question, c'est pourquoi avoir occulté la fantasy, puisque, par exemple, je prends le grand auteur de fantasy en vogue en ce moment, qui vend le plus de livres, Martin, qui revendique s'être inspiré de des Rois maudits, donc un roman historique qui était quand même... qui a fait date dans l'histoire des romans historiques. Il revendique pour Game of Thrones avoir vraiment utilisé cette technique de Maurice Druon dans Les Rois Maudits. Il revendique ce bouquin comme étant vraiment un de ses bouquins. Donc pourquoi avoir occulté ?
On n'a pas occulté. Il s'en est servi, c'est sa documentation littéraire. Il en a fait de la fantasy. C'est très bien. Ben voilà.
Et j'ai une deuxième question différente.
Je rajoute une réponse à celle qui vient d'être donnée. Effectivement, l'histoire dont s'est servi Martin dans ses livres, il ne donne jamais, à ma connaissance, aucune liaison entre cette histoire-là et la nôtre réelle. Oui. Donc c'est simple, il s'est simplement inspiré de trucs historiques, et je crois que les 9/10 de la fantasy fonctionnent comme ça.
Oui, on peut parler de Tolkien avec tous les écrits autour du Seigneur des Anneaux.
Absolument. Deuxième question,
du coup. Est-ce que on peut, dans un tout autre domaine, donc l'uchronie et l'anticipation, est-ce que vous pouvez utiliser ce genre littéraire pour éventuellement dénoncer, est-ce que vous le faites, est-ce que vous avez envie de le faire, pour dénoncer des travers de notre société actuelle, de notre histoire contemporaine, des choses que vous voudriez critiquer ?
On ne se permettrait pas.
Voilà. Non, c'est pas le genre.
Jamais.
Bah, évidemment que oui. Réponse. On pense tous certaines choses et quoi qu'il arrive, ça transparaît dans la façon de décrire. Par contre, tout à l'heure, je parlais des... ça n'a rien à voir, c'est une petite blague, mais je peux parler de ces BD, la nazie dont vous êtes le héros, ça m'énerve tellement. Je me suis dit, il n'y a pas longtemps, on va faire la BD stalinienne dont vous êtes le héros, histoire de remettre le curseur un peu plus au milieu. Voilà, donc tu comprendras un peu vers où penche plutôt mon cœur.
Non, les deux ouvrages emblématiques de la science-fiction qui dépassent le cercle des amateurs, à savoir Le meilleur des mondes et 1984, sont effectivement une réponse flagrante à ça.
1984, qui est d'ailleurs devenu une uchronie.
Oui, oui, ça se discute, ça. Oui.
C'est super chiant à lire. J'ai essayé de le relire il n'y a pas longtemps. C'est super mal écrit. C'est chiant possible.
C'est pas très bien, oui.
Ça va rappeler le collège.
C'est un tract.
Mais enfin, de toute façon, c'est clair qu'on fait passer nos idées dans nos romans et que, bon, et nos combats. Voilà.
Ceci dit, le but du jeu premier, pour moi, c'est d'avoir une situation dramatiquement excitante en premier, qui soit riche de potentialités, de développement pour les personnages. Et après, le côté un peu,
démonstratif,
pamphlétaire n'est pas systématique, quoi. Ça peut être la cerise sur le gâteau, mais je ne mets pas la charrue thématique avant les bœufs situationnistes.
Jolie formule.
D'abord, j'ai une idée et après, je vois quel thème elle peut drainer dans son sillage. Mais je ne me dis pas, je vais écrire...
Sans ça, tu n'auras pas de lecteur.
Non, mais on n'écrit pas des tracts. Voilà, c'est une évidence.
Mais si, j'en fais le dimanche, mais personne ne le sait.
Ah oui, d'ailleurs, on en a à vous distribuer
avec...
sur la situation catastrophique des auteurs.
Oui, ensuite, autre question.
Oui,
oui, là, il attendait depuis un moment.
Bonsoir. Non, c'est Fred Blanchard, je crois. Tout à l'heure, vous avez dit que dans une uchronie, on ne pouvait pas évoquer, par exemple, l'Allemagne nazie qui aurait gagné la Seconde Guerre mondiale.
Si on veut rester réaliste.
Si on veut, d'accord.
Avec des gros robots de combat, non.
Je voulais savoir
Philippe Dick, ce
qu'il en était de Philippe Dick pour le maître du haut château, voilà.
Bah oui, pour moi c'est pas réaliste, mais voilà, je suis plus dans la SF. Alors c'est un jeu sur une réalité parallèle, mais pour moi c'est pas une uchronie au sens où je l'entends.
Voilà. D'accord.
Et en plus, je trouve que voilà, il y a des trucs. Après, je vais dire peut-être un gros mot, mais je trouve que moralement, ça me ferait chier d'écrire une histoire où les nazis auraient gagné, quoi. C'est juste pas possible.
Monsieur Fred Blanchard, ne n'écrivons pas de la littérature réaliste.
Mais nous,
c'est peut-être un scoop pour vous.
Dans Jour J, ce qu'on essaie de faire, quand même, c'est on essaie vraiment de réfléchir de manière réaliste à notre histoire. Donc, c'est vrai qu'on s'est mis un cadre un peu strict. On essaie vraiment d'être le plus réaliste possible et de pas partir dans du grand n'importe quoi. Voilà. C'est vrai que j'aurais peut-être dû préciser ça.
On peut construire d'une façon réaliste des livres qui sont des livres d'imaginaire, effectivement.
Oui, bien sûr, mais voilà, on se dit qu'il y aurait quand même des possibilités que ça se passe.
On en a même le devoir.
Exactement.
Donc il y aurait aussi une morale pour vous, du coup, en plus de l'aspect crédible.
Encore une fois, je ne sais pas. Oui, un minimum, quoi.
D'accord.
Un minimum. Quand je vois ces BD là, qui sont en haut des charts, je me dis que c'est un peu malsain, quand même. Ça me gonfle.
D'accord, merci.
Je vous en prie.
Ensuite, mais ça va venir, je crois.
Oui, bonsoir. Moi, quand je pense à de la SF qui permet de traiter l'histoire, c'est tout de suite 1984 qui me vient en tête, parce que finalement, même si c'est plus de l'anticipation que de la SF, mais il y a quand même un certain nombre de technologies qui n'existent pas dans 1984, en tout cas à l'époque où il l'écrit, et finalement, la situation qu'il décrit dans 1984, c'est une situation qui n'a jamais existé. Le totalitarisme, que ce soit dans l'Allemagne nazie ou que ce soit sous l'URSS, n'a jamais été complètement finalisé, contrairement à 1984. Et finalement, c'est plutôt une remarque sur laquelle j'espère que vous allez rebondir plus qu'une question. Mais dans 1984, justement, ce qui est assez étonnant pour moi, c'est que Orwell s'enfuit devant la question de savoir si l'histoire doit compter ou pas, puisque le personnage a des souvenirs lointains de son enfance où il se rappelle un petit peu de trucs où c'était encore libre. Et c'est pour ça qu'il arrive à avoir des idées libertaires par rapport au régime en place. Et du coup, il ne répond pas à la situation réelle d'un totalitarisme fini où plus personne n'aurait de souvenirs d'avant ou d'autre chose. Et finalement, justement, Orwell, sur la question de savoir si on peut se détacher de l'histoire, il s'enfuit. Et... voilà.
N'ayant pas réussi à finir le livre, je vais laisser mes petits camarades répondre.
Mais je pense qu'il n'y aurait pas d'histoire s'il n'avait pas effectivement quelques petites lueurs qui lui permettent cette réaction libertaire.
C'est-à-dire, il pourrait l'être sans avoir de, justement, de base historique, sans avoir aucune connaissance de ce qui s'est passé avant. Il pourrait quand même trouver ça immoral sans référentiel, quoi.
Oui, effectivement. Ça ferait un bouquin un peu différent.
Ça serait le meilleur des mondes plus que 1984, en fait, dans l'idée, en fait, avec cette tirade, je veux Dieu, je veux l'amour, je veux l'aventure, etc. Et c'est tout.
Oui, alors je crois qu'il y avait quelqu'un ici, là, non, si je ne me trompe. Allez-y vite alors.
Bon, c'était juste, en fait, tout à l'heure, c'était juste une remarque. Moi, la question que je voulais poser, c'est le rapport entre l'histoire et la science-fiction, surtout dans le sens que quand on écrit un univers, quand en tant que lecteur, quand je lis un univers imaginaire, un univers créé, moi, surtout la question, c'est est-ce que l'univers est crédible pour moi, pour que je puisse rentrer dedans, même si c'est un univers complètement imaginaire, qui n'a rien à voir avec notre, que ce soit Star Wars, ou on s'en fout d'ailleurs. Et c'est surtout le fait que l'histoire, c'est la seule source d'événements ayant façonné des sociétés et de différenciation de sociétés. Et c'est plus ce rapport entre l'histoire et la SF qui me paraît intéressant, à travers le fait que, pour moi, de la bonne SF ne peut pas se faire sans une certaine compréhension du fonctionnement social et du fonctionnement d'évolution de la société.
Absolument. Oui. Ouais. Ça, personnellement, je peux dire que oui, d'accord.
Oui, et puis en plus de ça, quand on écrit au moment où on écrit une œuvre, on est quand même le produit d'une société. On est tous le produit de notre époque. Donc forcément, ça va retranscrire ça d'une manière plus ou moins différente. Mais oui, on va parler de nous dans cet instant T-là, bien évidemment.
Oui, bonjour, merci pour vos réflexions. Je voudrais juste revenir sur le sujet de la table ronde qui était comment l'ASF nous aide à comprendre l'histoire. Donc comment, selon vous, en racontant des histoires qui auraient pu se passer, on peut comprendre ce qui s'est réellement passé et comment vous aidez le lecteur dans ce travail-là?
Je connais un prof d'histoire à l'université qui est un grand amateur de science-fiction. Et qui est un grand amateur d'Uchronie. Et il se sert d'Uchronie dans ses cours, en gros, suivant le principe, ce n'est qu'en étudiant la façon dont les choses ne se sont pas passées qu'on peut mieux comprendre pourquoi elles se sont passées comme elles se sont réellement passées. Et il s'en sert vraiment, hein, je veux dire, c'est un outil pédagogique pour lui. Et je crois que c'est une partie de la réponse à la question que vous posez. Y en a-t-il d'autres parties?
Pour un peu qu'on reste réaliste dans les récits qu'on développe à ce moment-là, avec qui est vraiment des bases réelles, enfin réalistes en tout cas.
Ah bah évidemment, si on a des grands robots qui disent des conneries. Voilà. Mais ça, à la limite.
S'ils disent des conneries qui sont nazis.
Non mais à la limite, le problème n'est pas de savoir ça. Je veux dire, à partir du moment où effectivement les choses, on imagine que les choses ne se sont pas déroulées comme on se sont effectivement déroulées. Déjà, on sort du réalisme. Donc c'est ça le vrai problème. En fait. Après, comment on habille la chose, oui, ça peut être complètement ridicule.
Le problème n'est pas là, en fait, je crois pas.
Bah,
ça dépend si le miroir qu'on tend est bien construit ou pas aussi.
Autre réponse sur l'utilisation éventuelle de la science-fiction comme outil pour comprendre l'histoire.
Hop. Je pense effectivement que l'Uchronie peut être un très bon outil. Mmh. Oui.
Alors oui, encore une fois. D'autres questions? Oui, non, si, c'est difficile, parce qu'on est un peu à contre-jour, là. Ah, vous êtes très nombreux, en fait, oui, j'avais pas vu. Oui, il y a une main qui se lève, là. Il y en avait donc deux.
Oui, bonjour. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est juste quand j'entends histoire et science-fiction qui se mélangent, je pense à Barjavel et par exemple Le Grand Secret, et on n'a pas du tout évoqué Barjavel et partie de son œuvre,
La prochaine fois, on essaiera d'évoquer Barjavel aussi. Non, mais c'est effectivement tout à fait pertinent, vous avez raison. Mais on peut pas évoquer tout le monde parce que.
Bonjour. Donc, en considérant que la science-fiction, donc à travers l'étude des valeurs qu'elle porte et tout, nous permet de comprendre une histoire ou une civilisation, est-ce qu'on pourrait, en prenant du recul, imaginer que par exemple l'Iliade et l'Odyssée, au travers de son étude, est une œuvre de science-fiction qui nous aide à comprendre une culture d'après laquelle nous avons pris beaucoup de distance en fait?
Ah oui, c'est une œuvre de science-fiction, ça s'appelle Ulysse 31. C'est génial d'ailleurs. C'est
Je crois que ce serait bien d'arrêter de chercher des lettres de noblesse pour la science-fiction.
Non, mais en tout cas,
attends, je finis juste ma phrase. Ce serait bien d'arrêter de chercher des lettres de noblesse, pour le coup, pour la science-fiction et la fantasy, dans le cas d'Ulysse. Toute histoire est le reflet d'une société, d'une époque, d'une sensibilité. Donc voilà, c'est un poème. C'est un poème qui montre qui nous montre une société et une partie d'histoire aussi. Mais ça n'est pas de la science-fiction du tout, de la fiction. Non. T'es pas d'accord avec ça ?
Pareil.
Ah bah voilà.
Bien, bah écoutez, je crois que le temps qui nous était imparti est hélas épuisé. Vous pouvez garder les questions pour la prochaine table ronde, après tout. Hein. Ça sera pas, mais ça peut éventuellement marcher. Merci en tout cas d'avoir assisté à cette discussion.